Le bureau des rêves perdus. Une émission de Louis Mollion avec les rêves perdus de Georges Cochon. Illustration musicale par Aimable et Jean Méril. Réalisation Albert Riera.
Si personne aujourd'hui n'ignore le nom de l'abbé Pierre, qui se souvient encore de l'action de Georges Cochon en faveur des sans-logis. Georges Cochon, qui à 79 ans, vit à Maintenon avec sa retraite d'économiquement faible. Président du syndicat des locataires qu'il fonda au début du siècle, il organisa les fameux déménagements à la cloche de bois et les raffus de Saint-Polycarpe. Ouvrier tapissier, poseur de linoléum, Georges Cochon vivait péniblement avec sa famille, car chacune de ses expéditions spectaculaires, trois fois par semaine, lui valait une nuit au poste de police. Les journaux consacraient à ses exploits leurs éditoriaux, et j'ai même retrouvé au bureau des rêves perdus plusieurs chansons inspirées par Georges Cochon.
C'est Monsieur Poincaré, c'est Monsieur Poincaré, qui est le président de la République. Et c'est Monsieur Cochon, et c'est Monsieur Cochon, et c'est Monsieur Cochon, le président des sans-pognons.
Enfant, je dirais. C'est difficile à dire parce que ça ne peut pas être accepté par tout le monde. Mais, enfant, je pourrais dire que je suis né révolté contre les injustices sociales, déjà à l'école. Tout ce qui était contraire à l'égalité, à la justice entre les enfants même, me révoltait et me lançait dans toutes sortes de bagarres. J'ai continué dans la vie. J'étais révolté quand j'étais un homme aussi. J'ai commencé à travailler. Contre la justice sociale, l'égoïsme des uns, des patrons en particulier, et le laisser-aller des ouvriers entre sous. Plus tard, alors, ma révolte s'est concrétisée contre les guerres homicides, contre les injustices sociales qui m'apparaissaient plus apparentes. Et là, j'ai été la révoltée définitive que j'ai été, que je suis et que je reste. Je vivais à Chartres, enfin. Mes parents étaient blanchisseurs. C'était un métier de forçat. Mon père était un travailleur acharné. Avait beaucoup de mal à joindre les deux bouts ensemble. Et malheureusement, il est mort pauvre. Il est mort pauvre, mais quand il a dû cesser de travailler à 75 ans, je n'étais pas là. C'était l'époque où M. Clémenceau m'avait rappelé à lui pour aller extraire du minerai dans les mines de Luanza. Il a fallu que j'accomplisse ma mission d'abord, qui a duré 3 ans. Et quand je suis revenu, j'ai trouvé mon père avec 100 francs à manger par mois et crevant littéralement de faim. Ma mère était morte en 1915. À partir de ce moment-là, j'ai qu'un seul objectif. Vivre pour mon père. Et j'ai pu lui assurer, jusqu'à sa mort à 83 ans, une vie à laquelle il ne croyait pas. Toute la joie de ma vie, la plus grande joie de ma vie. À Paris pour chercher du travail. Mais je n'ai pas trouvé. J'étais tapissier, petit ouvrier tapissier, pas très calé sur son métier, mais enfin, je pouvais tout de même travailler. Je n'ai pas trouvé de travail. Alors j'ai vendu la presse. J'ai fait toutes sortes de choses. J'ai vécu des frites, encore des frites de dessous. Je me suis défendu comme ça, mais très, très difficilement. Quand je vendais la presse, on prenait 50 tous les soirs. Si je les vendais, j'avais gagné 20 sous. Et je vivais avec ça. Après, j'ai posé du linoléum. Là, j'arrivais à gagner mes 100 sous par jour. C'était le pactole. Là, à ce moment-là, c'était la grande noce, 100 sous par jour. Et évidemment, je ne prenais pas des autobus, parce que ça coûtait trop cher. Je marchais à pied, mais je pouvais marcher à pied. Alors là, la vie était belle. À ce moment-là,
lorsque je regardais de très près tout de même, je revenais à ce moment-là du régiment, où j'avais d'ailleurs été un très mauvais soldat, mais enfin je m'en étais tiré quand même. Et je me suis aperçu que les ouvriers eux-mêmes avaient créé des syndicats pour se défendre, pour défendre leur salaire, pour défendre leur droit à la vie. Mais les ouvriers aussi, c'était pas seulement ouvriers, c'était aussi locataires. À ce moment-là, on ne voulait pas de gosses dans les maisons. Si un ouvrier, n'importe qui, dans la classe ouvrière qui m'intéressait particulièrement, louait en logement des jeunes, eh bien, si la femme, au bout d'un certain temps, donnait des signes de grossesse, immédiatement le propriétaire lui donnait congé. On n'acceptait pas de gosses dans les maisons. Il n'en voulait pas. Ça détruisait. Il donnait congé, qu'est-ce qu'il y avait à faire contre ça? Rien. Il fallait qu'il s'en aille. Le propriétaire n'avait pas à fournir les raisons de son congé. Il devait seulement le donner dans les délais légaux. Il foutait purement et simplement à la porte. Simple congé. Citation référée et expulsée. Si une famille s'amenait avec 2-3 enfants pour louer, on lui refusait purement et simplement de louer. Aucune espèce de défense. Le propriétaire avait le droit de donner congé en respectant les délais légaux quand il le voulait. Même s'il était un bon locataire qui payait son terme. S'il ne payait pas son terme, il arrivait à ce moment-là, puisqu'il n'y a aucune loi sociale à ce moment-là, vraiment pas. S'il avait été au chômage, s'il avait été malade, il n'y a pas non plus d'assurance sociale, bah, et qu'il soit absolument à bout de course, et qu'il n'ait plus d'argent, et que le propriétaire le mette à la porte, lui donne congé. Et en partant, le propriétaire avait le droit de saisir les meubles pour les sommes qui lui restaient dues, et de les faire vendre. Il y a quelque chose de révoltant. Si c'était précipité un individu à la misère, elle l'empêchait de se relever, puis je détruisais son intérieur. Et bien, contre ça, nous avons aussi créé des mouvements spectaculaires peut-être, mais pour mettre le public devant les réalités et puis pour tenter de créer chez nous un mouvement de révolte. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a fondé le syndicat des locataires. Alors là, c'est très drôle. Ben, il fallait d'abord créer le syndicat. Pour créer un syndicat, il faut avoir des syndiqués. Pour avoir des syndiqués, il faut avoir des gens qui cotisent et qui puissent cotiser. Bon, eh bien, j'allais dans les bistrots. Je causais avec des gens au comptoir. Je vais faire le syndicat des locataires, ça collait ou ça collait pas, mais je faisais mon possible. La cotisation était de 1 franc par an et de 50 centimes par mois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le syndicat. Tandis qu'on a obtenu des lois qui ont déclaré l'immobilier insaisissable. Tandis qu'on a obtenu des lois pour interdire la saisie des instruments de travail, on a obtenu quelques lois qui ont défendu les ouvriers.
Locataires, descendons tous aujourd'hui dans la rue. Il faut par nos propriétaires que notre voix enfin soit entendue. Ohé, ohé, les locataires, proposons tous nos revendications. S'il faut, nous les imposerons, mais aujourd'hui, ne nous laissons plus faire.
Il y avait une propriétaire qui s'appelait Madame Chazelle. Admirable. Pas propriétaire, mais un vieux machin. Qui a du diplodocus, sur mon Dieu. Alors, évidemment, j'avais déjà fait quelques manifestations. Elle m'a donné congé parce que je m'occupais de grouper les locataires. Il n'avait pas besoin de me fournir de motifs. Elle avait le droit de me donner congé quand elle voulait dans les délais légaux, sans m'en fournir aucun motif. Mais tout de même, me l'a donné à moi, verbalement. Ah, ben si ça va bien. Alors j'ai résisté. J'ai dit, ben, je m'en irai pas. J'ai voulu la payer, elle n'a pas accepté. Et toute la procédure a suivi. Alors, tous les copains alertés venaient tous les jours. C'est des manifestations impossibles, la rue barrée par des agents. On se faisait monter des aliments par la fenêtre, drapeau rouge, ce que vous voudrez, etc. Ça fait un foin terrible dans Paris. Expulsion, on va en parler. Bah, comme toutes les expulsions. J'ai reçu un papier sur l'expulsé. Naturellement, je n'ai pas bougé. Le matin, la rue barrée des deux côtés par un cordon d'argent. Personne ne passe en plus. Les premiers déménageurs qui sont venus pour les manger, ils ont refusé de déménager. Je me marrais, comprenez-vous? Alors, ils ont été chercher des agents. Les agents ont déménagé, alors à ce moment-là, bon, il a fallu qu'ils cassent la porte, barricadés, comprenez-vous? Il a fallu qu'ils cassent la porte, il a fallu qu'une deuxième porte, ils la cassent, qu'ils cassent tout cela, comprenez-vous? Enfin, finalement, force est restée à la loi, à telle enseigne que, lorsque l'expulsion s'est produite, M. Lépigné, des préfets de police, m'a offert de me loger à la préfecture de police. J'ai dit, de vous dire que j'ai refusé. En le remerciant, d'ailleurs, poliment, mais c'était gentil de sa part. Ben, j'avais mis un drapeau rouge, ils m'ont fait enlever, j'étais poursuivi pour cela, enfin, c'est des à côté de la question, j'étais poursuivi, on m'a dit, mais dites dans un drapeau rouge, c'est... Non, mais monsieur Dichot, c'est comment? Non, monsieur Dichot, pas du tout, monsieur le président. Drapeau rouge, voyons, quand il y a un danger sur une route, des travailleurs qui travaillent, des gens passent, ils sont en danger, ils peuvent culbuter dans un fossé, il y a un drapeau rouge pour les inviter, pour leur indiquer qu'il y a du danger. Eh bien, la rue que j'habite, la rue de Danzig, était en danger tous les jours. Manifestations, des cordons d'argent de chaque côté, un coup est vite arrivé, il y avait un véritable danger. Il fallait bien que j'indique à ceux qui passaient dans la rue qu'il y avait danger à passer. C'était un signal de détresse, mais ce n'était pas un emblème révolutionnaire. Il dit, mais alors comment expliquez-vous un drapeau rouge de 4 mètres carrés? Tu ne sauras pas, monsieur le président, je l'explique simplement pas la différence du drapeau rouge planté à terre, puis du drapeau rouge porté à 10 mètres du haut du sol. Il faut bien qu'on le voie, il faut bien qu'il y ait des proportions suffisantes pour qu'on puisse s'apercevoir d'en bas.
C'est monsieur Cochon. C'est monsieur Cochon qui sera président de la République. Et les sans-pognons, et les sans-pognons toucheront plus dehors dans la mauvaise saison.
Alors, il y avait des gens qui étaient obligés de partir de Paris. Moi, des fonctionnaires, on le met loin ailleurs. Et qui, pour déménager, devait payer leur loyer. Le propriétaire ne les laissait pas déménager, donc il n'avait pas l'autorisation, s'il ne payait pas le loyer, c'est-à-dire non seulement le loyer échu, mais le loyer à échoir, parce qu'il ne restait plus dans la propriété de quoi garantir la sûreté des loyers à payer. Ils devaient donc partir, si vous voulez mieux, le 15 janvier, et payer le terme jusqu'au mois de juillet. Pas content, le grand vient me voir. Il me dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Loger dans cet appartement que vous avez payé, dont vous allez me donner la quittance, hein, jusqu'au terme convenu, n'est-ce pas? Les gens qui vous conviendront, des années de temps. Bon, ça allait. Alors que j'avais un locataire qui n'avait pas de logement, ben je dis, mon vieux, c'était une trouvaille, bon, voir. J'avais trop à les loger, et légalement, après tout. Alors je les amenais, hein, et je les logeais dans mon logement. Ben, ça a bien marché quelques noms. On a été quelquefois en référé. J'ai gagné une ou deux fois, mais après, malgré toutes mes dépositions, malgré toute ma défense, on était carrément expulsés. On nous foutait à la porte. Je dis, ça va pas comme ça. J'ai dit, comment? L'État ne veut pas loger les ouvriers sans abri, les familles nombreuses qui n'ont pas de logis, dans un logement qui est payé d'avance, lorsqu'il n'y a rien à débourser à pas s'en occuper, et une fois à la porte, qu'est-ce qu'on va faire? Alors voilà, au mois de janvier, j'avais une dizaine de locataires qui étaient venus me voir expulsés. Des pauvres gens, avec 4-5 gosses, comme minimum à 4 ou 5 gosses, qui étaient expulsés. Dans la rue, avec leur meuble, on ne s'occupait pas d'eux, on était dans la rue qui se débrouille. Alors je rassemble que les copains du syndicat, on n'était pas tellement nombreux, mais je les partage, trois par un signe, trois par à une charrette, je fixais l'heure, c'était un dimanche à 3h de l'après-midi, à telle heure tu te trouveras à tel endroit, tu trouveras une charrette à bras, vous la chargerez, et à 3h tapant sur la place de l'Opéra. Mais pourquoi faire? T'inquiète pas, soyez tous sur... Mais alors, l'heure, faites attention. Il y a la montre sur la place. Faites pas d'histoire le long du chemin. Passez inaperçu. Et à 3 heures, 3 heures tapant, sur ça pour vous surveiller, vous déchargez toutes les voitures en plein milieu de la rue. C'est-à-dire, d'un côté du Boulard, de l'autre côté, rue de la Paix, rue à Lévis, rue Aubert, avenue de l'Opéra et rue des Quatre-Septembre. Embouteillage complet de Paris. Alors, ça n'allait pas mieux. Vous voyez, les tassonnes, des voitures, des autogares, tout le monde gueulait. Deux agents sur la place, ils se précipitent, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ils prennent des mains, ils remettent quelques-uns de côté, deux agents sur... Il y avait à peu près une dizaine de ménages qui étaient allés dans le milieu de la route, avec les poils montés, tous les lits. Alors, le peuple amusé, le populo, immédiatement ramenait les mains sur le milieu de la chaussée. Alors, ça n'allait pas du tout. Ils sont venus une troupe d'agents, et puis ils ont tout de même débarrassé les meubles. Enfin, ça a duré 3 ans, l'embouteillage de Paris, et ils ont débarrassé les meubles, mais tout de même, ça fait du pétard. Et il y a un conseiller municipal qui s'appelait Goudin, a déposé un projet disant qu'il était honteux de tolérer des choses pareilles, des manifestations dans Paris. Alors, je lui ai dit, ce qui était honteux, c'est pas d'étaler la misère, je lui ai dit, ce qui est honteux, c'est de la laisser exister quand on va faire autrement. Un jour, famille nombreuse. Il y avait 8 enfants. C'était la famille, je crois, Roulina, autant que mes souvenirs sont précis. Et il y avait la première communion à l'église de la Madeleine. Il lui rassemble une dizaine de copains, Roulina, la famille, tout ça. Et puis, je leur dis, à 3 heures tapant, sur la place de la Madeleine. Je m'amène, moi aussi. Là, j'ai pas d'histoire, déchargé tout à la Madeleine, en première communion. Les copains montent les escaliers avec les meubles, les matelas, tout ça. Bois du Saint-Saint-Diable, le bedeau avec son grand sable, ça mène, mais qu'est-ce que c'est ce scandale? Ben si, on en met un. Ça faisait des familles nombreuses qui n'avaient pas d'abri. Vous en avez bien ici, des abris. Curé bien. C'est pas Jésus qui a dit, laissez venir à moi des petits enfants. J'ai des petits enfants malheureux. Je vous les amène à vous, le serviteur de. Le successeur de mon Dieu sur la terre. Qu'est-ce que je fasse de mieux? Ah, un petit coup. Oui, vous avez peut-être raison. Eh bien, écoutez, vous devez les faire ranger sous le péristyle. Je m'en occupais. 2 heures après, il leur a donné 1 000 francs. Donc, il y avait une famille avec plus grosse. Il leur a donné 1 000 balles. J'avais une petite maison, une exposition de maisons à bon marché. Ça s'appelait l'humble logis. C'était très bien. Hein. Il y avait la cuisine, la cuisinière, il y avait la table de salle à manger, les assiettes, il y avait tout ce qu'il fallait, ne manquait absolument rien. La maison exposée, bon, on peut lâcher. Ah, c'est une idée. Alors justement, j'avais mon Roulina qui, à ce moment-là, n'avait pas encore été logé. Alors, je dis, j'ai quelque chose pour toi. Alors, j'appelle les copains, je rassemble, je retrace le rouleau à chacun, un pour un pot-au-feu, un pour du papier, sur son bras, l'autre prend une bouteille d'eau, ou deux, dans deux poches, l'autre un bout de bœuf, là, des poireaux, des carottes, tout ce qu'il fallait pour faire un bon pot-au-feu. Hein. Mais il y était une dizaine, et chacun avait son ballon, mais bien dissimulé. Puis on touche, je dis, alors vous allez m'attendre là devant le petit pavillon, mais discrètement, ne mettez pas la foule. Ça se fera très bien, les gosses viennent, je les installe, les copains arrivent, on défait les ballots, on a rapporté une lampe à alcool, de l'alcool, on allume ça, ça commence à bouillir, le pote au feu, ça sentait là-dedans, tout le grand palais sentait le poireau. Alors, mes gosses étaient bien installés autour de la table, c'était très gentil. Disent, on ne va pas t'amener, pas d'histoire. Mais tout le monde s'arrête. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc publicitaire qui est pas mal, c'est une idée. Oui, en effet, c'est une idée pas mal. Mais la foule grossissait. Mais quand c'était à la table, on commençait à servir la soupe. La petite qui s'amène dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je dis, voyons, monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, il y a rien. Ben, vous ne vous gênez pas, non, je ne... Ben, je ne conviendrai pas maintenant, pas qu'on conviendrait. Une famille qui est sans logis, bigosse. Vous avez des logements qui ne servent à rien, puisque je suis à la rue. D'autant plus que je ferai remarquer que nous avons choisi la moins chère, l'humble logis. Nous n'avons pas exagéré, vous avez des maisons beaucoup plus chères qu'on aurait pu choisir la même chose. On ne les a pas fait. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ben, finalement, il leur a donné 1000 balles aux gens, puis ils sont partis. Saint-Père, c'est avec confiance que je dépose ma très humble requête au pied de votre sainteté. Depuis 3 ans déjà, je combats afin de procurer aux malheureux moins à l'abri, qui souffrent du froid, de la faim, de la misère, une asile qui les mette du moins à l'abri des intempéries de la saison. J'ai trouvé des aides parmi toutes les classes de la société, les gloires les plus connues de l'art morial, comme des plus humbles des plébéiens, sont venus à moi, les mains tendues et de cœur ouvert. Voici venu l'hiver avec ses froids, ses neiges et son long cortège de mots, l'hiver peu rigoureux sous le ciel clément d'Italie, où la nature est douce au sans logis. Votre santé n'ignore pas que les tout-petits qui charment et consolent de ses peines l'ouvrier autour de son travail et lui donnent la force de lutter pour les nourrir et les élever, que ces tout-petits sont des réprouvés, des parias, que les propriétaires haïssent et les jettent sans pitié, eux et leurs parents, dans la rue, où ils sont en proie à toutes les tentations, à tous les mauvais exemples, et où ils finissent, si bons et si honnêtes soient-ils, par se corrompre définitivement. C'est pour cela, très saint Père, que je viens pleurer, aider et secours auprès de votre sainteté, représentant sur la terre de celui qui ordonnait de laisser venir à lui des petits-enfants. Auprès de votre sainteté, ignée ardence, flamme ardente qui doit réchauffer les âmes et les corps grelottants des malheureux, des sans-logis que l'hiver guette comme une louve féroce qui veut sa proie. J'ai appris, très Saint-Père, qu'une fidèle, Madame la Duchesse de Mières, avait légué à votre sainteté un hôtel particulier, ici à Paris, 14 rue Barru. Cet immeuble aux chambres nombreuses, j'ai pensé que votre sainteté, dans sa bonté infinie, pourrait me permettre d'y loger pendant l'hiver des malheureux qui, sauvés de la misère, abrités, protégés, régénérés, garderont à votre sainteté une reconnaissance éternelle. C'est l'honneur d'être de votre sainteté, un très humble et très obéissant serviteur. J'ai caution, de la Fédération des locataires, etc. Recommandé, il ne m'a même pas répondu. Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas la peine d'être croyant. Tout ça, c'est fini. J'ai plus à l'église.
Ces cochons qui se foutent des propriétaires, ces cochons qui délogent un compagnon, ces cochons, quel avis du prolétaire, ces cochons qui se foutent d'administration.
J'y ai pas fait mon service militaire. Mais pourquoi? D'abord, quand je défendais les locataires, les femmes, avec 5 ou 6 gosses, qu'elles élevaient durement, difficilement, en se privant de tout, en ne faisant la plupart des petits réprouvés, parce qu'ils n'avaient rien non plus, ils étaient libres à toutes les tentations de la rue. Je leur disais, madame, vous avez 5 ou 6 gosses, ils ont bientôt 20 ans. Vous rappellerez-vous qu'aujourd'hui, alors qu'il y a des gens riches qui appelleront demain, pas demain, mais quand vos gosses auront 20 ans, qu'ils appelleront pour les défendre sur les champs de bataille, pour défendre leurs biens, leurs propriétés, les propriétés où ils ne veulent pas que vous les apprêtiez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces gosses-là? Qu'ils la défendent? Ce n'est pas votre devoir. Et alors moi qui avais dit ça des tas de gens, lorsqu'on m'a appelé à faire mon service misère, j'ai dit oui. Voilà, ouais, ouais. C'est toute ma vie. Je ne pouvais même pas dire oui, même si je l'avais voulu. Je n'ai jamais reconnu le droit de tuer quelqu'un. Au bagne militaire, au camp de Wanza. J'ai vu là, alors. Les pires crimes qu'un homme puisse commettre dans la vie. J'ai publié quand je suis revenu, un journal. Je me suis dit, tu n'as pas le droit d'être silencieux. Tu viens de souffrir des souffrances telles que tu en es tiré, toi, c'est vrai. Mais pendant les 3 années que tu as passées dans les bagnes militaires, j'ai fait le compte. Il mourait à peu près par an un tiers de l'effectif. Ce qui équivaut à dire qu'un homme condamné à 3 ans de travaux publics à ce moment-là était pratiquement condamné à mort. Si tu n'as pas le droit d'abandonner ceux qui restent là-bas, qui n'ont personne pour les défendre, tu es tout seul, tu sors, tu peux causer, tu peux faire quelque chose, tu vas le faire. C'est là que j'ai créé le RAFU, que j'ai consacré exclusivement à la campagne contre les bagnes militaires. Et j'ai été cité devant le conseil de guerre. À ce moment-là, non plus comme détenu, mais comme accusateur. Hein. Et alors là, devant le tribunal, je les accusais de tous les crimes qu'ils avaient commis. Et vraiment, ils sont innombrables. Je leur ai dit tout ce qui se passait là-bas, comprenez-vous. Ça durait 2 journées. Un jour, j'étais au bureau, une dame vient me voir, elle me dit, monsieur Cochon, je dis, moi, qui a été l'honneur, madame la comtesse Arachougon. Madame, j'en prie, très honoré, je veux s'asseoir, elle dit, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Je suis très embêté, j'habite les boulevards Flandin, petit pavillon, et je me suis fâché avec ma propriétaire, qui s'appelle madame de la Véronne. Je suis tellement fâché avec elle que j'ai dû déménager et abandonner mon pavillon. Il me reste encore 6 mois. J'ai payé 6 mois avant de partir. Alors je reviens tout de même en mettant un petit peu ma propriétaire. C'est simple. Vous allez me louer votre pavillon, connaissez-moi, qui reste à courir, donnant le droit d'y faire tout ce que je voudrais, notamment d'y loger des familles sans abri. Hein? Puis je me charge du reste. Oh, le bon Dieu, vous n'oubliera pas. Il me dit, oh, ben, j'espère bien, hein, le comtesse, c'est vous non plus, etc. Congratulation. Et ça marche. Alors qu'il fait des faits. J'avais au moins une chaîne de famille sans abri. Je rassemble une centaine de copains. Et puis on emménage dans le pavillon de la comtesse. Alors, nous voilà là. Enfin, finalement, on a été expulsés parce qu'on avait logé dans un pavillon devant cette habité bourgeoisement des tribus d'occupants qui n'ont ni les mêmes devoirs ni les mêmes habitudes que les habitants du quartier. On reste quand même. On ne bouge pas. Ça dure un bon moment. Alors à ce moment-là, toutes les voitures de touristes, les grandes voitures de touristes, venaient, c'était un lieu de plaisir. On venait voir le fort Cochon, le fort La Rochefoucauld. Les fortifications étaient pleines de monde. Alors tous les dimanches, il y avait réunion, il y avait les gosses qui mangeaient dans la cour, il y avait discours, on montait dans les chaises, puis tout le monde était à la cour, c'était marrant. Ça dure un bon moment. Puis un jour, tout de même, nous avons été expulsés. Nous étions toujours là, nous on tenait le coup là. On était ravis de taguer, il y a tant de gens qui nous apportaient des tas de trucs pour nourrir les gosses. Il y avait au moins 40 ou 50 gosses. Alors, quand on a été sur le point d'être expulsé, c'était fini. On avait épuisé la procédure, et des mouchards partout, qu'on s'appelle pour la police. La veille de l'expulsion, je vais acheter chez Ruggieri des pétards. C'est des pétards de feu d'artifice. J'amène ça, on attend. Puis le matin, évidemment, le commissaire de police, avec les sommations, ni rien. Bouge pas, porte barricadée, tout fermé. Alors, il veut ouvrir la porte, il commence à vouloir enfoncer la porte. Alors, à ce moment-là, un pétard part. Le ciel, pam ! Tout le monde, tout le camp. Il dit, je vais avec Nani, ils ont des fusils, faire attention, etc. Alors c'était une panique terrible, le commissaire, en grand uniforme, le général de police, là, l'officier de paix, le Godkin, tout le monde foutait le camp. Puis après ils sont revenus, je le mets. Et ils ont démoli complètement la porte. Alors je dis, la comtesse, on va faire la commande des voitures de déménagement, parce que c'est correct qui payait. Ben oui, la commande 400 voitures de déménagement, les voitures de déménagement en viennent, on entasse les meubles là-dedans, et on monte à Bougival. On monte à Bougival au cri de « Vive Jésus, nom de Dieu !» Il y a un type qui s'appelait Bourse qui était à la gueule au matin, c'est lui qui avait tombé ça. « Vive Jésus, nom de Dieu !» Il a tombé ça parce qu'on accrochait. La comtesse a voulu qu'on mette un Sacré-Cœur derrière un semier, qu'on met derrière un camion. « Vive Jésus, nom de Dieu !» Alors c'était le cri de ralliement, « Vive Jésus, nom de Dieu !» Alors la comtesse vient voir et dit « Monsieur Cochon, ils sont bien gentils, vous protégez, mais vous savez, ils cassent tout là-bas. » Je dis, comment casse-t-il ? C'est pas possible. Mais il me dit, mais si, ils ont fait ceci, c'est là. Oh, C'est bien ennuyeux, ça, dans la comtesse. Même dit, comment faire? Ah, bah, dit, ça, c'est embêtant. Ben, vous ne pourriez pas m'en débarrasser. Pour qui je vais passer? Je sauve des gens de la misère, vous aussi. On va les rejeter dans la rue maintenant. À quoi ça a servi à ce qu'on a fait? Rien du tout. Dites donc, si on peut faire contre 8 petits pavillons, alors là, on les loge dans leur pavillon et vous êtes débarrassés. Et vous avez tout le monde entier devant vous. Ah, me dit, vous avez une idée. Enfin, lui, ils ont décoté un terrain à Romainville. Enfin, ils ont trouvé aussi un petit entrepreneur. Il a construit là 8 pavillons. Le sol en dur, puis le dessous en planche. 8 pavillons. Pour les acheter tous. Ah, c'est le premier pavillon, on va s'en aller. Et qui leur appartenait, qui leur avait donné. Alors, donc, la contestation, entre nous, bien sûr, c'est un peu folle. Mais des fous comme ça, je les salue.
Descendons tous aujourd'hui dans la rue. Il faut parler au propriétaire que notre voix enfin soit entendue. Ohé, ohé les locataires, proposons tous nos revendications. S'il faut, nous les imposerons. Mais aujourd'hui, ne nous laissons plus faire.
Un jour, Cosette, mon ami Brunet, je lui dis, enfin je comprends pas, au conseil municipal, vous ne faites rien pour les pauvres gens, les sans-logis. Pourquoi ne construisez-vous pas des maisons à bon marché? Vous pouvez me voter un emprunt, pas. Et il dit, mais voter un emprunt, j'en ai proposé plusieurs fois, ça a toujours été rejeté. Je lui dis, écoute, veux-tu que je te parie que moi, tu déposes un emprunt demain, tu me diras quand il sera discuté. Et je te promets qu'il sera voté. Oh, me dit, tu rigoles. Écoute, je vais même pas te faire plaisir. Je vais déposer un emprunt de 200 millions pour construire des maisons à bon marché pour les familles nombreuses. Mais je te promets qu'il ne sera pas voté. Dis-moi, je ne sais pas qu'il sera voté. Bon, donc tu vas me dire, dis donc, cochon, tu vas demander de déposer un projet de loi pour un emprunt. C'est déposé, il vient en discussion tel jour. Je ne me rappelle plus les dates, je recherche, je ne me rappelle plus. Il me dit, bon. Eh bien, ben, je te l'avais dit, il ne sera pas voté. Ben, dis-moi, j'ai dit qu'il sera voté. Ah ben, on va bien rigoler, mais il ne sera pas voté. Eh bien, je dis, attends, non. J'avais ce moment-là au moins 5 ou 6 familles sans abri. J'aurais rassemblé le banc et l'arrière-banc du syndicat, c'est-à-dire à peu près une trentaine, quelque chose comme ça. Je partage mes gens aux voitures à bras, puis à 3 heures, c'est à peu près l'heure de la discussion du projet, ça commence à 2 heures. À 3 heures, rendez-vous sur la place de Tête de Ville. Et sans autre avis, si vous êtes tous rassemblés, regardez l'heure, déménagez tout et montez ça à l'hôtel de ville. Oh là là, ben ça a bien marché. On a bien monté une voiture au premier étage. On est toute la marée chaussée sur les reins, évidemment. Et on a été foutus à la porte. Et tous les conseillers municipaux à la fenêtre, à toutes les fenêtres, en train de regarder ces fameux cochons qui se permettaient des choses insensées. Le soir même, l'emprunt a été voté à l'unanimité. L'opinion était alertée. Ma théorie était ceci. C'était à l'État de loger les familles nombreuses, attendu que les enfants, ces familles nombreuses-là, quand ils seraient grands, participeraient à l'effort commun dans la société. Ils ne devaient pas les laisser crever de faim. Ils devaient au moins leur donner le droit à la vie en les logeant. Il ne s'agit même pas de les faire payer, c'est de leur donner un local, puis d'obliger les propriétaires à refuser les locataires qui avaient un gosse avec eux, ou 2, ou 3, 4 même. Simplement, ce qu'on voulait obtenir, on l'a obtenu d'ailleurs, les maisons à bon marché qui ont été construites, viennent de là. Si j'apprenais par exemple qu'une maison avait été vendue, cette maison-là était destinée à agrandir une école proche, ou adjacente, comprenez-vous? Je savais, moi, d'habitude, que cette maison achetée par la ville ou par l'État ne serait pas touchée avant 2 ou 3 ans, et pendant 2 ou 3 ans, elle resterait vive, serait libre. Bien, immédiatement, nous l'emmenions les gens. 3 fois par semaine que j'ai employé, j'ai arrêté. Si vous êtes dans un déménagement comme ça, je suis arrêté. On m'a emmené au poste. Il fallait contrôler mon domicile, paraît-il, pour me lâcher, parce qu'il y avait tout le monde au domicile. Alors, le domicile était contrôlé, mais ça se passait à 2h du matin, il fait 3h. Alors là, on me dit, vous pouvez partir. Alors, je ramassais mon mouchoir, les quelques bricoles que j'avais qui étaient à mon mouchoir, notamment mes supports chaussettes et mes bretelles. Des fois que je me suicide, hein. Puis on me lâchait. Bah. Puis je pensais que pour tapage injurieux ou embarras de la voie publique, je n'allais pas loin. Je ne me présentais pas. Bah, tu connais par défaut. Bon. Alors, je fais appel au jugement de défaut. Là, défaut sur défaut, c'est définitif. Je me présentais. Lorsque ça venait en appel, c'est défaut. Alors, je me représentais après, quand on me signifiait le jugement, en défaut, contre le jugement de défaut prononcé. Par défaut, en me présentant moi-même. Ça durait toujours moins un an, quelquefois plus. Et comme pour tous ces petits délais-là, au 14 juillet, au 1er de l'an, il y avait l'amnistie. Je passe au travers. Je les ai eus comme ça. Combien de fois? J'ai des centaines et des centaines de jours de prison. Jamais ils ont pu m'avoir. Alors un jour, j'avais une femme avec 400 gosses. C'était Madame Le Guen, je me rappelle. Bon, on va faire un truc. C'est au gars, non, mais à la voiture de police. Et une dizaine de beaux gars, la femme avec ses 4 ou 5 gosses, et puis tout le barda sur la voiture en bas. On s'amène, pas trop de bruit, puis ils ne veillent pas les alentours, puis tout d'un coup, tac, on rentre en plein dans la porte, et puis on rentre dans la cour de la machine. Je prends le bas, là c'est les alentours, on va chercher le premier qui était là. Elle a dit, faites-moi c'est M. Cochon. Alors j'ai remonté dans son bureau. Mais M. Cochon, alors quoi, non? Bien, mettez-vous, alors. Alors pourquoi pas? On va dire, mais je suis particulier. Mais si, vous n'êtes pas particulier, monsieur le préfet. Au contraire, j'ai beaucoup de sympathie pour vous. Vous accomplissez un rôle merveilleux que j'admire. Mais tout de même, lorsque vous chassez les pauvres gens, après tout, vous avez autre chose à faire. Il y a des voleurs, il y a des assassins. Tout ça, c'est plutôt votre rayon. Des pauvres gens qui cherchent un logement et puis qui ne veulent pas coucher dehors. Hein. Il dit, bah, cette femme-là, qu'est-ce que je vais en faire? Bah, si, écoutez, je vais en faire. C'est ce que je vais vous demander. Je vais la mettre sur votre garde. Je ne m'inquiète pas, vous en avez chassé. Mais chez vous, elle a sûr que vous la défendrez chez vous. Je me dis, mais c'est pas si bête que ça, il me dit. Venez avec moi. Il m'emmène. Il dit à ces gens-là, vous gardez toujours la voiture, puis la femme et les gosses, puis les copains. Il m'emmène dans les écuries de la garde républicaine. Il dit, non, ça. Ben ça. Ben c'est une écurie. Je dis, oui, c'est des stalles, vous mettez des chevaux. Mais actuellement, il n'y a plus de chevaux. Il y a plus, c'est désaffecté. Les stalles sont libres. Si j'ai le GEDA, votre famille, qu'est-ce que vous diriez? Ah, ben bravo, monsieur le préfet. Mais vous êtes sauveur. Mais parfait, on accepte d'enthousiasme. Et j'espère que tout le monde sera supposé ce que vous avez fait. Évidemment, on a logé la famille de Guyenne avec ses 4 ou 5 gosses dans les stalles des chevaux. Il a fait apporter des matelas, tout ce qu'il fallait. Ils étaient très bien logés. Ils étaient nourris par les policiers.
Ces cochons qui se foutent des propriétaires, ces cochons qui délogent un compagnon, ces cochons qui est l'ami du prolétaire, ces cochons qui se foutent de l'administration.
Je ne regrette pas la vie que j'ai vécue. Si c'était à refaire, je le referais encore. Bon, il y a eu évidemment des tas de privations de cette vie, mais de telles satisfactions et de telles joies, de telles joies que tout le monde ne peut pas partager, mais qu'on garde pour soi, dont on jouit personnellement la joie d'avoir fait quelque chose. Alors, quand on a ça avec soi, on peut aller loin. Je crois à la bonté. Je crois à la bonté, mais c'est une denrée de plus en plus rare. Alors, les gens sont devenus d'un égoïsme tel qu'il faudrait quelque chose pour les réveiller. Quoi ? Je ne sais pas. Deux guerres les ont absolument abrutis. Les changements de régime, tout ça, les histoires, même de Russie et tout ça, les ont fait perdre toute confiance. Ils se sont repliés sur eux-mêmes, ils ne pensent plus aux autres. Ils n'ont qu'un souci, c'est leur défense personnelle dans la société. Voilà le pire, voilà. L'écueil auquel on se heurtera maintenant, à moins que quelque chose tout de même vienne et qui change tout ça. Ce qu'il devrait être, c'est l'entraide mutuelle. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. La situation serait à quelqu'un aujourd'hui, il ne sait pas si demain, sa situation ne sera pas une situation désastreuse. S'il n'a pas aidé l'homme qui aujourd'hui avait besoin d'être aidé, eh bien demain, si cette situation lui échoua, il n'a plus à attendre rien de personne. C'est une vie vide, une vie sans objet, une vie sans idéal. Malgré son âge, le coin qui a plus de 75 ans peut-être, ça, il va encore créer un journal. Il doit, pour créer ce journal-là, se dépenser d'une façon intensive. Parce que créer un journal, c'est quelque chose. Un journal, ce journal est fait uniquement pour défendre les citoyens du monde, comme Gary Davis. La bonté entre tous les hommes, mais c'est irréalisable, je n'y crois plus. Il y aura encore quelques petites étincelles, il y aura encore quelques petits foyers qui s'allumeront. Mais est-ce que ça sera une intensité suffisante pour enflammer le monde? Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de rêve perdu. À plus ou moins longue échéance, il n'y a pas de rêve perdu. Il y a notre confiance qui se perd peut-être dans un rêve. Mais je crois que quand même, il n'y a pas de rêve perdu. Car ce qui fut pensé dure en éternité. Ah, c'est pas de moi, c'est Darouko.
C'était le Bureau des rêves perdus, une émission de Louis Mollion, avec les rêves perdus de Georges Cochon. Illustration musicale par Aimable et Jean Méril. Assistant de production Georges Arnal, réalisation Albert Riera.